Merci beaucoup, merci de l'invitation et de la possibilité de échanger avec vous ce soir sur, comme vous avez dit, le choix de Racine et Chemin, deux sujets particulièrement sensibles actuellement, celui des migrations, celui des religions. Ce sont deux sujets un peu. Donc, bravo à vous d'avoir eu le courage d'essayer d'approfondir tout au long de cette session le lien entre ces deux questions. Brièvement, avant d'entamer cette réflexion avec vous, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager. D'où je parle, je suis donc Geneviève Jacques, présidente de la CIMADE depuis juin 2013. C'est une mandat collectif, on est élu pour deux ans renouvelables et j'ai été renouvelé en 2015. Je ne sais pas si il est important que je vous dise aussi qu'avant d'être à la CIMADE, j'ai eu un long parcours œcuménique. Je suis professeur réformé, mais j'ai eu un long parcours œcuménique, c'est-à-dire au sens de la terre habitée, œcuménique, large. Et jamais dans les structures d'église. J'ai pendant 10 ans eu la chance de travailler au Conseil économique des églises à Genève, où j'ai occupé des postes en lien avec les droits de l'homme, on va dire, et aussi toujours préoccupé avec mon histoire par la question de la situation des personnes déracinées, des personnes menacées, et en particulier la question des réfugiés et des migrants. J'ai eu l'occasion, le privilège de voyager dans beaucoup d'endroits du monde où j'ai dit très fort, évidemment, que je suis allé très souvent en Thaïlande, pas pour aller sur les plages, je ne connais rien de tourisme thaïlandais, mais je suis allé dans beaucoup de camps de réfugiés, de hôpitaux, etc. en Thaïlande. Et je connais beaucoup de pays sous ces angles-là, et ça donne l'occasion de rencontrer aussi des gens formidables. Donc voilà, c'est brièvement une longue histoire avec la CIMADE depuis longtemps. Et les réflexions que je vais partager avec vous ce soir, elles sont à partir d'un regard CIMADE. C'est pas simplement mes propres réflexions, mais à partir d'un regard CIMADE. J'aime bien commencer pour essayer de caractériser ce qui pour moi, dans mon histoire, mais je crois est très profond dans l'histoire de la CIMADE, ce qui caractérise notre regard. Eh bien, c'est la perspective à partir de laquelle on regarde l'histoire. Et là, on a été très fortement marqué dans l'histoire de la CIMADE par les théologiens allemands, anti-nazis, en particulier Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer écrivait dans sa prison en 1942 « Cela reste une expérience d'une incomparable valeur que nous ayons appris à voir les grands événements de l'histoire du monde à partir d'en bas, de la perspective des exclus, des suspects, des maltraités, des sans-pouvoir, des opprimés, des bafoués. » Et c'est une façon de regarder l'histoire à partir de ceux qui sont les plus souffrants, les plus oubliés, les plus mis à l'écart. C'est ça que ça caractérise l'engagement de la CIMADE et aussi ce sera la façon dont nous essayons de comprendre avec d'autres, bien sûr, les événements du monde. Je ne sais pas si vous connaissez la CIMADE, si vous ne la connaissez pas, il y a des petites brochures, mais juste en quatre mots. C'est une association qui a 73 ans et qui est née pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être aux côtés des personnes menacées. Elle a d'abord été aux côtés des déplacés, alsaciens, lorrains, vous vous souvenez, qui ont été, je pense pas à votre raison, et qui ont été envoyés dans le sud-ouest de la France, donc les personnes les ont fait évacuer, le peu de l'image de évacuer, mais un peu plus d'années, parce que personne ne sait ce qu'elle est évacuée. Et puis la CIMAC, et surtout les équipes de la CIMAC, sont surtout engagées pour défendre, sauver les juifs persécutés dans la guerre. Et puis, les passages de frontières, aussi vers la Suisse, il y a toute une histoire tout à fait intéressante. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la CIMAC a gardé comme priorité la solidarité avec les personnes réfugiées, migrantes, déracinées, et surtout avec une attention particulière sur ceux que les différents courants d'histoire désignaient comme les indésirables étrangers. Notre solidarité, nous, est peut-être se définit, je le définirais en quatre verbes, c'est pour définir l'action de la CIMAC, c'est être avec, on est aux côtés, on est du côté des personnes étrangères qui sont en France, qui se présentent à nous, et avec une attention particulière pour ceux qui sont mis-côtés, pour ceux qui sont considérés comme indésirables. Et on a dans une pratique d'accueil inconditionnelle. On accueille tout le monde sans regarder sa religion, bien évidemment, son origine, etc. La deuxième, ça caractérise beaucoup le travail, en particulier dans cette région, c'est un travail de défense de l'accès aux droits et de défense de la dignité des personnes étrangères à travers des actions d'accompagnement à l'accès aux droits et d'accompagnement juridique, mais aussi accès à la culture, d'accompagnement sociolinguistique. Et puis la CIMAC est aussi, et si vous en entendez parler, c'est aussi une association qui parle, qui a une parole publique. À la fois dans des actions de plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, au niveau national comme au niveau plus local, pour résister quand il y a des injustices qui sont insupportables, ou des pratiques de préfecture, par exemple, ou ça peut être autre chose, qui sont humiliantes pour les êtres humains. Et ça, on est très ferme sur ces questions-là. Ça énerve quelquefois les gens, mais depuis 75 ans, on n'a fait pas quelquefois les pouvoirs politiques. Et puis, il y a cette notion très importante qui est de témoignage, qui est de proposer, d'essayer de trouver un langage de sens, et en particulier à travers des actions que nous appelons de sensibilisation, et qui essayent de toucher les milieux scolaires, ou bien différents milieux, ou bien à travers une manifestation qu'on a chaque année qui s'appelle le Festival Migrantel, qui utilise le secteur de la culture pour essayer de, alors nous disons tous, essayer de faire changer les regards, d'ouvrir un petit peu les yeux et d'aider les gens à peut-être apercevoir, mieux comprendre cette réalité. La CIMAC d'aujourd'hui, c'est 85 groupes locaux dans 13 régions, 35 permanents salariés, plus de 2300 bénévoles actifs, c'est-à-dire qui agissent vraiment, beaucoup de d'amis et de donateurs, bien sûr beaucoup plus, heureusement. Et nous dirons à travers toutes nos permanences et nos actions, que ce soit des permanences dans des locaux, donc à travers toute la France, ou bien dans des prisons, il y a 120 bénévoles qui visitent les étrangers en prison, ou bien dans les centres de rétention, nous sommes présents aussi. Nous accompagnons chaque année plus de 100 000 personnes étrangères. Et donc, je ne dis ça pas simplement pour faire de la publicité pour la CIMAC, mais pour devenir d'où je parle. Et quelle est notre légitimité comme association pour parler d'un certain nombre de choses. Je vais très vite sur le contexte. Et quand on parle de migration actuellement, nous lisons tous le journal, regardons, écoutons la radio, regardons les informations. On se rend compte que actuellement, ces jours-ci, presque ces mois-ci, c'est pas nouveau, les questions migratoires sont au cœur non seulement de l'actualité, mais au cœur de tensions très fortes. En France, on assiste donc à ce spectacle que nous trouvons révoltant et désolant, d'une surenchère pour justifier de ne pas accueillir, de fermer ses portes, de rejeter si possible, à propos de la thèse de quelques milliers de personnes en provenance de Calais, on entend des choses qui sont simplement révoltantes. Quand on entend dire accueillir 1700 personnes pour la région, c'est pas la vôtre, mais la région Rhône-Alpes, qui est une des régions les plus riches de France, avec 8 millions d'habitants, 1700 personnes on ne peut pas accueillir, il y a quelque chose qui est de l'ordre du scandale. La situation en Europe aussi, c'est autour de la question migratoire que le projet européen risque peut-être d'implosé. Les Britanniques sont déjà sortis sur cette question, en ayant joué des peurs sur cette question. On voit quasiment la sécession d'un certain nombre de pays d'Europe centrale autour de cette question. Et donc, c'est la dernière réunion, la semaine dernière, des chefs d'État et de gouvernement des 27 maintenant, ils n'ont pas abordé la question migratoire, ils l'ont reportée à plus tard. Et au niveau international même, vendredi dernier, c'est venu pour la première fois, vous vous rendez compte, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, une journée spéciale, une session spéciale, portant sur migrants et réfugiés. Tellement la situation est grave. Les 193 chefs d'État du monde ont passé une journée pour travailler sur cette question. Et il y avait eu des travaux préparatoires, mais on a bien essayé de dire que la première fois, on espère qu'il va y avoir une prise de conscience dans les sorties des routes pour, sur les droits de l'homme, la paix, etc., aucun engagement concret. Or, la situation, elle est ce qu'elle est actuellement avec un nombre inégalé depuis la Deuxième Guerre mondiale de personnes déplacées de force et une augmentation très notable, bien qu'il faille la replacer dans son contexte, de mouvements de population en direction de l'Europe. Et là encore, c'est le plus grand mouvement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le thème que vous m'avez proposé ce soir, que j'ai accepté, c'était face à la crise migratoire, quels enjeux, et pour les chrétiens en particulier. Et je prends un angle pour les citoyens chrétiens. Avant de. Et ça, je pense que c'est important, et que ce n'est pas simplement un jeu, simplement pour jouer sur le mot, il me semble très important de réfléchir à essayer de. De souligner l'importance du choix des mots quand on parle de ces questions. Dans ce contexte actuellement, j'ai dit brièvement, mais vous savez, aussi bien que moi, hyper politisé, hyper médiatisé, le choix des mots n'est pas neutre. Parce que il traduit une façon d'appréhender la situation et il induit aussi des choix. Selon qu'on parle de réfugiés ou de clandestins, vous voyez, ou même la guerre. Et actuellement, on voit, on entend toutes sortes de termes, et on voit une tentative, plus une tentative, une réalité, d'essayer d'opposer migrants et réfugiés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Migrants, en principe, ça veut dire. Donc en pratique, c'est quelqu'un qui bouge, ça invite un mouvement, c'est pas un statut du migrant. Mais quand on dit migrant dans notre pays actuellement, on se entend migrant économique. Avec cette attention négative du militarisme. Et on les oppose aux réfugiés qui, eux, seraient ceux qui ont un besoin légitime d'être protégés. Réfugiés, c'est un statut reconnu par le droit international, la Convention de Genève, et qui, donc, reconnaît que toute personne qui demande l'asile, qui vient demander l'asile dans un pays, parce qu'elle a besoin de protection internationale que ne peut pas lui accorder son pays, parce qu'elle est persécutée pour des raisons politiques, religieuses, d'appartenance à certains groupes ou certains groupes sociaux, ces personnes-là doivent être reconnues. Elles ont demandé l'asile avant la réfugiée, elles demandent l'asile, et si c'est reconnu, elles ont le statut de réfugié. C'est un statut reconnu internationalement et qui, en gros, donne un droit au séjour. Pourquoi la vie, c'est forcément protéger ça, mais il y a un danger à vouloir opposer des bons et des mauvais. Je veux dire, si c'est les réfugiés ont besoin de protection, est-ce que les autres sont des profiteurs ou sont des faux réfugiés? Je dis que c'est un danger parce que nous envoyons tous les jours des conférences. Je suis présent par permanence avec moi. Nous recevons des personnes qui viennent dans cette énorme exode. Hein. Ils soient passés par les Balkans, ils soient maintenant arrivés par les amis. Ce qu'on voit dans les bateaux, etc., etc. Dans la réalité, les personnes qui entreprennent cet exode ont les histoires sont mêlées. Ils ont tous en commun de fuir des situations de violence. Et la violence, ça peut être la guerre, ça peut être des destructions, ça peut être la misère, ça peut être des règlements climatiques, et ça peut être l'impossibilité de vivre dans des pays chaotiques. C'est tout ça qui produit la violence. Or, un certain nombre de ces causes ne sont pas reconnues par la Convention de Genève. Et donc, tous les gens que nous voyons, et que nous allons voir arriver dans nos pays, ils sont en commun de fuir les situations de violence et de prendre tous les risques pour trouver un endroit pour vivre dignement et de permettre à leur famille de vivre dignement. Là, ils sont tous en commun, ça. Quel que soit le statut qu'on va leur donner, l'étiquette qu'on va leur mettre. Je crois que c'est très important d'avoir ce regard pour résister à beaucoup de choses qu'on entend en disant « Bon, les Syriens en ont bien, mais les autres, ils ont 40 chez eux. » C'est beaucoup plus compliqué que ça, la réalité. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de ces personnes, à la fois, on préfère, quand on parle en général, bien sûr, après, on défend avec les armes de droit, mais on préfère utiliser le terme que vous voulez, qui n'est pas un terme juridique, mais qui désigne des êtres humains. Toutes ces histoires sont différentes. Il y a des millions d'histoires individuelles différentes, et nous préférons utiliser ce terme délégué. Les gens ont entrepris un exode dans les conditions terribles, et qui se trouvent obligés, et un certain nombre vont probablement vivre leur temps de vie parmi nous. Autre terme à décrire, et après on va arriver aux enjeux, c'est le terme de crise migratoire. On entend toujours ça, crise migratoire. Pour parler de cet exode-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est important de le dire en introduction, c'est vrai que c'est un mouvement très important. Replaçons-le, sortons un peu des loupes de nos propres préoccupations, pour regarder ça un peu plus haut. L'année dernière, dans mon célèbre de France, l'année dernière, environ 1 600 000 personnes sont entrées sans visa, sans avoir été invitées, donc c'est quelque chose, en Europe. c'est beaucoup, parce qu'ils sont arrivés sur un temps très court, et qu'ils ont été très mal accueillis par tous les Européens. L'Allemagne en a pris beaucoup avec les problèmes de la cause. Donc, 1 300 000 arrivant en un an, c'est beaucoup. 1 600 000, c'est beaucoup. Ça représente 0,3% de la population européenne. Et si on compare, ce 1 300 000 de personnes qui ont demandé l'asile, 1 600 000 qui ont demandé l'asile en Europe, il faut les comparer aux presque 5 millions de personnes étrangères qui ont immigré en Europe, qui sont des membres de famille, des étudiants, des travailleurs, des biens, des migrations intra-européennes. Donc on nous voit un phénomène important, mais qui n'est pas, qui n'a rien d'une invasion en termes de chiffres. Hein. Et de plus, alors là, si on redescend en France, la France, l'année dernière, a été très peu touchée, mais très peu touchée par ce qui se passait à nos frontières. Sur les 80, la dernière année, il y a eu 80 000 demandeurs d'asile en France. Sur ces 80 000, il y a eu 5 000 seulement, 5 000 Syriens. Je crois 5 000 Afghans ou 5 000 Soudanais, 3 000 Afghans et 3 000 Irakiens. C'est-à-dire que l'immense majorité des personnes qui se trouvent dans cette école-là ne sont pas venues en France l'année dernière. Cette année, ces chiffres vont peut-être en augmentation à cause de parce que les autres pays sont complètement saturés. Mais on entend ces paroles. Et ces peurs d'invasion, en termes de chiffres, la France n'est pas du tout face à un afflux ingérable comme là que l'Allemagne. L'Allemagne, ça fait beaucoup. L'Allemagne, sans doute, ça fait beaucoup. C'est pas du tout le cas français, encore moins le cas britannique. Et puis, pour terminer juste sur ces chiffres, je voulais la saisir, mais juste pour dire, il faut se souvenir qu'il y a actuellement 65 millions, c'est-à-dire représentent vraiment la population française, de personnes déplacées de force dans le monde. Et là, ça fait 6 000 années depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et sur ces 65 millions, 21 millions sont des gens qui sont forcés de quitter leur pays. Donc, qui deviennent demandeurs d'asile ou réfugiés à l'extérieur. 86% des réfugiés sont réfugiés dans les pays voisins, qui sont des pays pauvres. Nos pays riches accueillent moins de 14% de tous les réfugiés du monde. Et quand je dis nos pays riches, c'est les États-Unis, l'Australie, etc. Donc, remettons tout ça en perspective quand on entend et on va entendre qu'on en fait déjà beaucoup, etc. C'est le monde qui va pas bien. Et c'est beaucoup de personnes qui viennent solliciter une protection en tant qu'être humain. Et je suis très frappé, moi, en entendant un certain nombre de réactions actuellement, de me dire, et ceux d'entre vous qui ont souvenir aussi de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, que retiendra l'histoire des jours que nous vivons actuellement. Que retiendra l'histoire de l'égoïsme de nos nations? Que retiendront les nations dont sont originaires ces migrants, les Syriens d'Afghanistan, etc. Qu'est-ce qu'elles retiendront de la façon dont notre Europe se comporte? On se prépare des lendemains difficiles si on se posera des questions. Je crois, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais je trouve qu'on est dans une situation, me semble-t-il, on peut caractériser un aspect historique. Ne mettons pas de grandes lettres, on est dans une situation historique les risques du pire existent. Les risques du pire, eh bien, c'est l'enfermement, c'est cette mentalité de forteresse assiégée, et puis on va en parler, c'est la montée de tous ces mouvements, la xénophobe, et de la peur qui gagne tous les pays. Aujourd'hui, je dis que la CIMADE a été mobilisée les équipes de la CIMADE en refusant, on n'était pas les seuls bien évidemment, mais en refusant que certains êtres humains soient catalogués comme des indésirables étrangers. Aujourd'hui, la figure de l'indésirable, elle a changé. Dans notre pays, la figure de l'indésirable qui devient le bouc émissaire de tout ce qui va pas, c'est l'étranger du sud de la Méditerranée, sur lequel il polarise toutes les peurs dans notre pays, et soit parce qu'il est de culture musulmane, donc supposé islamiste et terroriste, ou bien il vient d'un pays pauvre d'Afrique, donc potentiellement profiteur. Et ces courts circuits qui actuellement permettent de désigner les bons émissaires. Et ce sont ces hommes, ces femmes, ces familles qui arrivent actuellement dans notre pays. Mais l'étude est réelle, c'est l'objet de cette soirée, c'est de parler d'un contexte très loin, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. Et nous devons en être convaincus, parce que il y a dans notre pays, et dans cette région comme dans toutes les autres, des gens comme vous, ou comme beaucoup d'autres, refusent tous les faux prophètes du repli identitaire et de l'argent renfermement, tout le monde se méfie tout le monde, etc. Et beaucoup de gens comme ne veulent pas de ça sur notre pays. Et il y a des initiatives très nombreuses qui se développent actuellement à travers la France. On n'a pas beaucoup parlé de ceux qui refusent, mais il y a beaucoup plus d'initiatives qui se développent à travers la France et qui font la preuve parmi nous, dans notre pays, beaucoup de gens pour qui l'accueil est une chose possible, faisable et réalisable. On trouve donc que dans ce contexte de ce gouvernement, en face d'un certain nombre d'enjeux importants, j'essayais de proposer quelques leviers pour faire face à ces enjeux. Ils sont très lourds, les enjeux. On n'y arrive jamais tout seul. Hein. Mais le premier, je crois, c'est un enjeu de prise de conscience. De prise de conscience que la question de l'immigration, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années, aujourd'hui, constitue un véritable marqueur du choix de société que nous voulons. La façon, l'attitude qu'on a par rapport aux questions migratoires est un marqueur du choix de société. Dans la mesure où elle cristallise des positionnements politiques, et qu'elle révèle des orientations de fond. Soit on met la priorité sur le repli, sur le national, parce qu'on a peur des autres. On veut fermer les frontières à toute immigration nouvelle. Toute cette frustration sur l'identité française qui serait menacée. Il y a tous ces discours sur la priorité nationale. Quand on parle de priorité nationale, ça veut dire qu'on est on dit discrimination pour les autres. C'est ça que ça veut dire, priorité nationale. Ça veut dire discrimination pour les autres. Pour l'accès aux droits des personnes étrangères. Et on voit bien que ce type de choix, il est très présent sur le marché politique français actuellement, amène à des orientations vers, voilà, plus d'ordre, de sécurité, la sécurité d'abord, la sécurité d'abord. Soit, ça c'est un choix, soit la priorité est mise sur tout ce qui permet les principes fondamentaux qui permettent de faire société ensemble. On ne fait pas société ensemble si on a peur des uns des autres. On ne fait pas société ensemble si on ne fait confiance à son voisin. Même, on commence par faire confiance à son voisin qui a l'air étranger, même s'il est français, hein, mais qui a l'air étranger, qui a peur de faire confiance à son voisin.
Ça marche comme ça.
Et donc, si la priorité est mise sur le renforcement de tout ce qui permet de faire société, de vivre ensemble, et qui sont nos grands principes républicains, hein, et qui demandent de l'égalité des droits en tant que être humain, une solidarité avec les plus vulnérables, une fraternité avant de découvrir au combien. Ce type de choix-là orient vers le renforcement de la société civile. Une société civile qui soit convaincue, ancrée dans ses valeurs, et qu'il faut défendre, et qui soit, parce que si la société civile est forte, qu'elle est organisée, qu'elle se manifeste, elle pourra influencer les politiques. Et je pense, et participer à la construction de notre politique. Je pense vraiment qu'on est dans un moment où les partis politiques et les élus de toutes sortes ne bougeront pas s'ils ne sont pas poussés par une opinion publique forte et convaincue. Les incitations, on le voit, ne fonctionnent pas comme ça. Donc, premier enjeu, prise de conscience. Ce n'est pas une question. Auquel il faudrait s'occuper, simplement parce que ça pourrait être humain, ça pourrait être suffisant, hein. Mais là, on est devant cette question de vivre aujourd'hui, en 2016, est un marqueur de choix société. Deuxième enjeu, pour mettre en compte. Deuxième enjeu, il faut donner un peu de l'individu. Et on est là actuellement chauffé par quelques milliers, etc. Quand on lève le nez du vent et quand on écoute ce que disent les scientifiques, tous, indépendamment, alors là, je parle là des politiques, je dis, tous les gens qui font des études scientifiques le disent que le 21e siècle sera un siècle de migration humaine. Que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas. C'est une réalité indéniable qui fait partie du monde globalisé dans lequel nous sommes. Qui accompagne tous les. C'est beaucoup plus facile de regarder maintenant. Et ce n'est pas simplement cette facilité-là. C'est que les informations, c'est une partie maintenant. Au fin fond de la tête du monde, et vous connaissez. Le téléphone portable passe partout. Et donc, tout ceci, toutes les informations circulent et aussi avec le progrès de l'éducation, un certain nombre de régions, les aspirations des enfants qui ont l'éducation. Vous savez, cette fameuse phrase, la France va pas venir tout à l'heure du monde, mais elle va en prendre tout ça, pour qu'il y ait retard en fait. La misère du monde, elle est sédentaire. Les gens les plus pauvres n'ont pas les moyens de bouger. Pour bouger, il faut avoir non seulement des moyens financiers, qui sont souvent collectés collectivement, avec des communautés qui se mobilisent pour que chacun s'en aille, ou bien comme les terriens, etc., qui vendent de tout, et qui des maisons, des voitures, etc. Parce que les voyages de plus en plus chers, plus chers. Donc il faut des ressources financières, il faut aussi d'énormes ressources physiques et morales pour tenir le coup. Quand on entend une histoire, qu'on entend peut-être certains d'entre vous ont l'occasion d'écouter des témoignages de gens qui viennent de passer par où ils sont passés,
il faut une force morale considérable pour prendre tout ces risques-là. On ne peut pas à la légère. Je suis absolument scandalisé quand j'entends certaines personnes dire « Ah, il y a qui rêve de l'Eldorado ?» Comme si c'était parce qu'on y vient pour la sécurité sociale. Vous imaginez que les gens mettent leurs femmes, leurs enfants dans les bateaux pour venir toucher la sécurité sociale en France, parce qu'ils vont jamais entendre parler de rien. Il faut comprendre la force de vie et qui accompagne ces gens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes plus immigrants français qui voyageront, c'est un fait de société. Voilà. C'est un fait. Et ensuite, il y a des arguments pour dire que il y a des candidats toujours pour repenser les immigrants. Les calculs, alors je vous livre un truc très intéressant parce que ça n'est pas vu avant. Les économistes ont fait un petit calcul du coût pour l'Europe des mesures de fermeture des frontières. Donc, ça veut dire tout, vous avez entendu parler de cette frontière, ça veut dire tous les systèmes électriques, électroniques, etc., pour sécuriser les frontières. Depuis, donc, ils ont des petits avis, donc on n'a pas un autre et depuis les centres de rétention, en fait, depuis le début des années 2000, les pays européens ont dépensé 13 milliards d'euros. Pendant le même temps, les migrants ont dépensé 15 milliards d'euros dans les mains de passeurs pour tenter d'entrer en Europe. Quel gâchis! C'est une énorme simplement. Même quand on rentre les assises humains, mais quel gâchis d'opportunités avec des besoins considérables, aussi bien pour le développement que pour la paix. C'est rien pour ces raisons, les politiques de fermeture des frontières sont. Enfin, j'ai aussi, pour les scientifiques, des questions anthropologiques, un défi démocratique. Les sociétés des pays riches sont vieillissantes. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'avoir un renouvellement sur les mains et une céramique des âges qui changent. Là encore, c'est une réflexion amusante. On a le choix pour maintenir une démocratie et cet équilibre démocratique. Faire venir comme il semble, donc c'est une drapeau, ou bien le choix des Japonais, les Japonais n'ont pas de migrants. C'est remplacer l'homme par des robots. Est-ce que c'est ce type de monde vers lequel nous voulons aller? La troisième raison, elle est inventée par la travail scientifique, pour dire que c'est un phénomène, pas l'enseignant, une personne, ce sont des considérations géopolitiques. Les raisons de migrer sont de plus en plus nombreuses et elles sont mélangées. Regardez ce qui se passe autour du bassin méditerranéen. Il y a une déstabilisation, absolument pas éternelle, bien sûr, mais encore pour un certain temps, de tous les pays, de l'Irak, de la Turquie, voilà comment ça va maintenant, de toute cette région-là. En passant par le 10, il y a une déstabilisation durable, on parle de la corne de la vie. On voit bien que ça va pas s'arrêter demain. Quand on dit crise, on nous a dit qu'il y a des fleuves de secours, probablement pas. Hein. Les délégations économiques sont de plus en plus grandes, et le dérèglement climatique. Et ensuite, non seulement il y a beaucoup plus de raisons qui poussent les gens à partir, ou qui donnent envie de partir, mais qui beaucoup plus facilement. Donc, la mobilité humaine, qu'on accepte, faire accepter cette idée, paraît tout cela que tous les scientifiques le disent. La mobilité humaine fait partie de notre réalité aujourd'hui et de notre place. Et comme disait le responsable des questions migratoires à l'OCDE, ce n'est pas un militant national ni
quelqu'un particulièrement politique, il dit la question ne doit plus être, et il dit ça, c'est comme ça, ne doit plus être comment empêcher l'immigration, on voit que c'est pas possible, mais comment faire en sorte que tout un chacun en bénéficie. Les migrants, les sociétés d'accueil et les sociétés de départ. Alors, face à tous ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a trois types de musées qui, en tout cas, sont ceux que nous essayons de promouvoir et que je vous propose sur cette phrase, pour de répondre à ces enjeux. Il y a d'abord un devoir ou une nécessité de s'adresser au pouvoir public. Au pouvoir public. Les politiques publiques en fait ont la responsabilité de l'État et dans la période actuelle, il me semble qu'il faut faire passer un message simple. La France peut faire plus et mieux. C'est assez simple comme message. C'est le titre de la campagne lancée par les 10 protestants du jour au mois de juillet. Sur lequel vous les accueillez d'abord, en disant à notre gouvernement, mais aussi à tous ceux qui font au pouvoir, la France, elle peut faire plus et mieux qu'elle le fait maintenant. Et donc en demandant, c'est pas simplement un slogan, mais demander à l'État de s'engager plus fortement dans la période des réfugiés, c'est en train de se faire, sans le dire. Actuellement, et que la France soit porteuse d'initiatives au niveau européen, mais là je crois que malheureusement on est dans un contexte où les choses n'évoluent pas très facilement. Et ce que nous demandons, peut-être on y arrivera, mais il faut continuer de le demander, c'est que la France, en tout cas, et d'autres pays européens, favorisent les voies d'entrée légales. Si on donne des visas, beaucoup plus de visas, les gens partiront pas en mer, les pasteurs ne s'engraisseront pas sur la misère des autres. Et ça, c'est une question politique, ça, de donner des visas. Actuellement, ils sont venus encore maintenant, au compte-goutte, même de ce pays. Et puis, demandant que les priorités soient accordées à l'accueil plutôt qu'à la réflexion. Parce que ça va tout aussi faire, les réflexions, de tenir un discours, c'est pour nous très important de tenir, quand on demande à l'État, à toute l'administration, d'accroître, de donner des moyens pour bien accueillir les personnes étrangères, on demande aussi de faire progresser les politiques sociales pour ceux qui sont au bord de la route, qui sont en France depuis plus longtemps, qui soient français ou étrangers, mais qui sont aussi plus longtemps. On ne veut pas opposer les nouveaux arrivants, les pauvres entre eux. Ça, c'est plus utile à ça. Il faut changer quelque chose pour les nouveaux arrivants, et il faut le faire. Il faut aussi des politiques sociales pour ceux qui sont là. Et puis, soutenir, et là, c'est le défi d'aujourd'hui, c'est probablement de demain, mais très concrètement, c'est des formes de coopération réussies entre l'État, les collectivités locales et les organisations, les mouvements de la société civile et les églises également. Et tous ceux qui se représentent des forces dans la société, parce que c'est de cette coopération qu'il faut des moyens de l'État, il faut des moyens locaux, des collectivités. On fait ça dans quelque part, et donc en quelque part c'est organisé. Et puis, il faut aussi des éléments de la société, des gens qui se disent. Et les gens trouvent que quand il y a ces trois qui fonctionnent, il y a beaucoup de ces exemples d'accueil collectif. Quand il y en a un ou deux qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire si les municipalités sont contre, en général ça ne marche pas très bien. Et si la société civile ne se mobilise pas, il peut y avoir des locaux confortables, des gens peuvent être chauds, etc. C'est pas de la même. dans la société.
Ça, c'était donc concernant les ce qui concerne les politiques publiques. Deuxième, l'opinion publique. J'en ai parlé, vous le savez, si vous écoutez la radio, il y a actuellement un climat de peur entretenu à coup de mensonges, malheureusement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui expriment leur crainte, leur incompréhension et leurs questions. Et ces questions, beaucoup de ces questions sont légitimes. Et donc, nous pensons qu'il faut d'abord s'écouter. Je ne suis pas traité de raciste, je ne sais pas quoi les gens qui disent, je pense qu'on ne peut pas accueillir. C'est sûrement pas la bonne. Il faut entendre ces peurs-là et répondre de ces différentes façons. Le premier niveau, c'est qu'il faut utiliser les arguments rationnels. Quand les gens disent des contre-vérités, en fait, du genre, il y a une invasion, là, je peux donner des chiffres, du genre, les étrangers qui arrivent, on leur donne tout, vous allez sûrement comme ça, on leur donne tout, on leur donne la sécurité sociale, le RSA, ils sont logés, tout, etc. On peut peut-être expliquer un petit peu la situation. Ceux qui arrivent, par définition, n'ont rien. Hein. La plupart d'entre eux ont très peu. Donc, ils sont pris en charge à leur arrivée, c'est normal. Ils sont pris en charge pour l'hébergement et ils n'ont pas le droit de travailler, et encore moins le droit de RSA. Ils ont 11 euros par jour pour leurs besoins quotidiens. Plus de la moitié d'entre eux ne sont pas hébergés dans des foyers spéciaux, ils sont hébergés au camp 15, dans les hôtels, dans les hébergements d'urgence. C'est ça la réalité des gens qui arrivent. C'est ça la réalité. Et si on les voit, déjà, on a entendu dire, regarde, ils font besoin dans la rue, pourquoi ils ne travaillent pas? C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de travailler. Notre législation interdit aux demandeurs d'asile de travailler. Toutes ces choses, on peut les expliquer, les gens comprendre hein, un certain nombre de choses. Aussi bien sûr les amalgames avec les robots et tout ça. Ça, c'est une approche qui je crois est indispensable et un certain nombre d'organisations dans la CIMA, dans la sortie, et on a une nouvelle édition qui va sortir en adoption, mais ce qui guide pour démonter les préjugés. À partir de toutes les questions que l'on entend le plus souvent, ben, de lutte et de faits objectifs. Voilà. Juste pour pouvoir répondre, chiffre contre chiffre, c'est-à-dire fait contre fait. Si l'effet clair, c'est insuffisant. Une approche humaine, à travers la rencontre, et certainement une nécessité pour les gens qui ont des doutes, qui ont des peurs, c'est quand ils ont rencontré, ils ont écouté, ils ont rencontré des vraies personnes, en faisant dans une fois que le regard peut changer. Et ça peut se faire de façon très simple, en multipliant les occasions de rencontre. À partir du moment où, à la sortie de l'école, les Français, ou les gens qui sont là depuis longtemps, de rencontrer une personne de même pied à main, ils vont la voir d'abord comme un parent, comme un père, une mère, un enfant, avant de voir un étranger. Quand des jeunes jouent au foot, ce sont d'abord des jeunes, avant de se demander s'ils sont étrangers ou pas étrangers. Et c'est tout ce changement de regard qui vient quand on rencontre, qui peut venir quand on rencontre des personnes humaines. D'où l'importance de pouvoir susciter ces occasions de rencontre humaines toutes simples, toutes bêtes, de la musique, le sport, la nourriture, pour vous, et d'autres occasions de rencontre humaine simplement pour faire ce premier pas de contact humain. Je vous en parlais tout à l'heure, mais je vous recommande, si jamais vous n'avez pas lu, et j'espère que vous en aurez bientôt. Un petit livre qui aide à faire ce changement de regard. Un petit livre qui s'appelle Eux, c'est nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu. C'est un tout petit livre avec un texte magnifique de l'auteur Daniel Serras. Ça coûte 3 euros et ça exprime dans un sens superbe. Très simplement, c'est finalement si on se disait, mais au fond, ces gens-là, c'est des hommes et des femmes, des pères, des mères, des frères, des sœurs, un peu comme nous finalement, et qui veulent défendre leur famille, etc. Et puis comme nous aussi, comme peuple. Et ces souvenirs, et là il y a une dimension très importante aussi, parce qu'on entend n'importe quoi actuellement, qui est l'approche historique. La France ne se reconnaît peut-être pas comme ça maintenant, la France est un pays dont l'histoire s'est construite à travers les immigrations successives. Nous avons tous, non, pas tous, un Français sur 4 a au moins un grand-parent venu d'ailleurs. Et c'est pas gaulois. Simplement prendre conscience que la société française, notre fameuse identité française qui serait devenue droit de la série, elle s'est construite et modelée à travers tous les apports qui font que la France est connue aujourd'hui. C'est notre société qui a été née avec ses défauts, ses qualités, mais ça vient de tout ça. Et que vouloir figer en 2016, dans les apports de 2016, c'est fini. Simplement, c'est une approche, c'est une absurdité historique et sociologique. Et quand on entend, vous m'avez entendu faire référence à ce monsieur, et c'est ça que je veux dire, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas d'identité française heureuse dans une France multiculturelle, on dit qu'il y a un danger là, pour la cohésion de notre pays, quels que soient nos avis politiques, etc. Et là, on met en cause la cohésion profonde. Et donc, cette connaissance historique, qui est malheureusement mal enseignée dans l'histoire, mais je crois que c'est important de continuer en ce moment, plus particulièrement parce qu'on entend dire un petit peu d'autres choses, et puis c'est aussi l'énergie. Parce qu'on prend actuellement les traits très élevés, c'est tout en traduit les couches, c'est pas de toute façon, mais. Juste tout ce qui ne va pas bien et ce qui est bon, un peu angoissant, mais en même temps, l'année dernière, non, la Commission consultative des droits de l'homme, à laquelle j'appartiens, a publié au mois de mai un rapport scientifique qui a été fait par toute une véritable enquête représentative, etc., sur le degré de tolérance à la société française. Et bien, au miracle, les Français sont de plus en plus tolérants. En 2015, je crois, excellent, ça va en 2016, le problème, parce que ça vous étonne, ça nous a tous étonné, hein, parce qu'on entend tellement dire que les Français sont après, que les Français n'en veulent pas. Le problème, c'est que ceux qui tiennent le haut du palais et qui parlent sont ceux qui rejettent et qui disent des paroles de haine, qui disent des paroles que je ne dirais pas. Tous ceux qui sont d'accord, qui reconnaissent que notre société multiculturelle, que ça va être traduit d'ailleurs par la multiplication incroyable du nombre de mariages contre mixte, c'est-à-dire avec des gens qui étaient d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et le nombre de gens qui s'en sortent, etc., c'est très important aussi. Mais on entend tous ceux qui le disent, le monde se déplace les plus noirs. C'est donc important de rappeler que les gens qui ne sont pas du tout des militants de la climat, ils n'ont rien du tout, sur ce que c'est des débats, eh bien, c'est une mesure, la mise de cohérence depuis des dizaines d'années. Eh bien, ils remontent en France. Ce qui prouve qu'il y a une crise de conscience, un petit peu de ce que je disais, et c'est un fait. Qui ont bien à se connaître. Donc, c'est pas de suivre des histoires. Ici, le troisième chose, là, ça me concerne très directement, après avoir fait la prise de conscience et ces différentes
différentes formes de manières de dévouer les peurs, il faut se rendre compte sur le terrain, parce que nos paroles, si éclairées soient-elles, ne seront crédibles et légitimes que si elles sont accompagnées d'actions d'actes concrets, localement et nationalement. Et des exemples, des existences d'actions concrètes, il y en a énormément. Alors, bien sûr, à la fin, on est très sensibilisé à ça, donc on a toutes nos antennes sorties pour les repérer. Hein. Mais le nombre de municipalités qui ont ouvert des centres d'accueil, qu'est-ce que ça avec la peur un petit peu des habitants, c'est normal. Mais à travers les explications, et puis qui ensuite se réjouissent de la présence et de l'investissement que ça a représenté, c'est très important. Et puis, juste une illustration qui m'a semblé très belle. Nous étions, avec le secrétaire général et moi, pour la première fois à l'Assemblée du désert, les professeurs parmi nous, parce que c'est la grande assemblée du Cévenol, une fois par an, beaucoup de monde, etc. Et il y a le partage du pain, la Seine-Seine. Les pains qui étaient partagés avaient été cuits par un réfugié afghan qui s'est installé dans un village avec femme, enfant, etc., qui a transformé la vie de ce village. C'était quand même bien. Il a commencé par être pas. Cet afghan, comme tu sors, il a commencé par être condamné, défendu par un climat de quelques autres, et maintenant, il a été boulanger, et il a fait revivre une boulangerie dans un petit village des Cévennes. C'est une histoire un peu parabole, je veux bien. Mais des exemples. Il y a des difficultés ici, évidemment, ce sont des gens comme nous, là, il n'y a pas que les plaintes. Des villages vers le bas, etc., où ils ont maintenu les écoles ouvertes, où la forêt n'a pas fermé, etc. Il y a cet enjeu-là dans les zones rurales. Et puis aussi, il y a tout cet enjeu de familles qui ont accueilli des équipes. Il y a eu des campagnes, des équipes en particulier, ont fait un appel pour que des familles puissent accueillir, accompagner pendant un chemin vers les villes. Et pour avoir longtemps été à côté de la cité, je peux vous dire à quel point, avec mon mari, on avait été bouleversé de l'habiter des gens qui nous, voilà, c'est pas grand-chose, hein, c'est normal. Je nous ai dit, c'est la première fois que les Français nous aiment. Ils avaient tous prophétisé, ils étaient passés dans les temps, comme ils n'avaient jamais été invités à manger simplement dans une famille française. Ces simples gestes-là sont des choses qui sont possibles, sont faisables sans. Et il y en a beaucoup à travers toute la France. Il y en a eu beaucoup de familles qui étaient prêtes à accueillir, et malheureusement, ils n'arrivaient pas à faire de réfugiés. Je te rassure, maintenant, ça va arriver. Il y a des étudiants dans plusieurs universités qui sont mobilisés pour justement donner des cours de français. Les grandes écoles françaises qui sont mobilisées pour donner des cours à des gens qui arrivent et qui sont pas francophones en plus. Donc il y a eu plein de collectifs qui sont mobilisés pour apporter de la nourriture, des vêtements, des jouets pour enfants, etc. Il y en a plein des choses comme ça à travers la France. Et puis bien sûr, il y a des associations comme les nôtres, on va dire, nous on les fasse programmer pour faire ça. Et qui font de l'accompagnement, alors de l'accompagnement à l'accès au droit, de l'accompagnement aux Français, et qui recevront et qui auront besoin de nouvelles forces pour renouveler ou démultiplier différentes formes d'accompagnement. La qualité de l'accueil, vous savez, c'est bien sûr la qualité de l'accueil. Pour la personne qui a besoin de reprendre une histoire de regard, c'est la qualité du regard, de porter sur eux. ici on se comporte comme les gens de certaines préfectures, ou si on ne fait qu'un strict minimum, il ne faudra pas s'attendre à ce que ces gens qui viennent de subir beaucoup de traumatismes s'adaptent bien dans notre pays et s'intègrent bien. Or, après, on va leur faire l'obligation de s'intégrer bien. L'intégration se suppose de faire des pas les uns et les autres. Hein. Et je terminerai en disant que ce titre, c'était, on va dire, demandé en étant deux pour les chrétiens. Pour moi, le fait des chrétiens, quand j'ai dit tous ces. Quand j'ai parlé de tous ces enjeux, il s'agit d'enjeux citoyens. Qui, pour. On va parler de ces affaires citoyennes, hein, mais qui devraient raisonner, ou qui raisonnent, particulièrement fort aux oreilles des chrétiens. Pas, je ne justifierai pas une injonction morale. Il me semble que les hommes, les femmes, qui tentent de prendre au sérieux le message de l'Évangile, doivent savoir que, merci Vincent, ça veut dire quelque chose, que l'étranger à nos portes, on n'a pas à lui demander s'il est légal ou pas légal, s'il est étranger, s'il a son statut ou s'il n'a pas son statut, la première réaction, c'est d'aller vers lui. Et c'est d'abord peut-être s'accueillir. Je ne dis pas que c'est des cas, on parle d'une débat. Il y a cette culture que nous partageons, mais il y a en plus, de façon qu'on risque d'être souvent découragé hein, quand on fait de l'accueil et de l'accompagnement. On a des ressources, un trésor de ressources. D'autres religions aussi, mais si on parle des chrétiens, les chrétiens ont, dans les textes bibliques et dans leur tradition, des trésors de ressources pour venir au monde. Pour ne pas s'effarer, pour ne pas devenir cynique, pour ne pas devenir découragé. Et ça, c'est votre prélat pour avoir une question, si on s'en sert, bien évidemment. Et puis aussi, nos églises représentent, alors là, un réseau de compétences, de richesses, je ne parle pas que monétaires, hein, mais de locaux, etc. Hein. Qui est considérable si on le met ensemble. Donc, il y a, face à tous ces enjeux, nous avons la responsabilité d'utiliser tout ce qui nous a été donné et qui ne sera pas en marche si on ne l'active pas nous-mêmes. Je pense que pour avoir des réponses qui soient à la hauteur des enjeux, ça peut être compte que aujourd'hui, d'un point de vue chrétien, je commencerai par dire qu'il faut absolument que ça soit très bien définie, très bien à faire des réponses, une réponse catholique, une réponse protestante, une réponse évangélique, une réponse orthodoxe, non. Il faudrait que, au moins, c'est des tentatives d'affronter ensemble, comme chrétiens, avec la richesse de nos traditions, les différences, etc. aussi. Mais il faut aussi, et votre association va dans ce sens, essayer de faire une dimension, aborder toutes ces questions aussi avec une dimension interreligieuse. C'est les trésors de richesse dont disposent les religions de l'Église en particulier, et la Catholique dans votre religion, mais également, les gens qui sont porteurs, qu'il faut mobiliser ensemble, je pense. Voilà. Et c'est ce que nous appelons, nous, et je termine par ça, par ce défi que je trouve motivant, stimulant, qui est de devenir témoin et acteur de la construction d'une culture de la citoyenneté.
avec tout ce que tu as, en repensant à au titre de votre association, une culture d'hospitalité qui puise dans des racines et qui dispose de racines particulièrement fortes, et aussi qui offre des chemins pour avancer. Vous savez, en français, le terme haut est un terme relatif, hein. L'eau, c'est celui qui reçoit, et c'est celui qui interroge. Et c'est une belle idée. Parce que c'est l'idée de la réciprocité. Et ça fait comprendre aussi, quand on parle d'hospitalité, il y a deux temps. À l'arrivée, le premier temps, c'est celui d'urgence. Et là, c'est nous, c'est ceux qui sont déjà là, qui doivent accueillir. On appelle fini, et ils arrivent, on appelle fini. Mais ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de l'installation, là, il faut qu'on fasse un chemin ensemble. Pour aussi que notre société les accueille et qu'on fasse ce chemin ensemble. Et je termine, et que cette expérience de l'accueil mutualisé, son avantage dans un temps long, un peu historique, mais c'est long par derrière, et dans le temps simplement, eh bien, ça nous permet de fabriquer, en en ayant confiance, la société, une société pour demain, une société dans laquelle nous voudrons que nos enfants vivent. Voilà, c'est bon.